Bonjour les amis et bienvenue dans le Blabla Mix, votre émission culturelle sur le mix des cultures. Nous sommes jeudi 17 janvier et l'équipe du mix des cultures est en place et en forme. Bonjour tout le monde, bonjour Marion, bonjour Damien.
Bonjour Ousmane.
Bonjour Aïcha.
Bonjour.
Ouais, c'est clair, il est 17h01, le temps que tout le monde se mette en place bien sûr. Et nous avons un revenant parmi nous qui est Monsieur Damien. Bienvenue. Et puis c'est un plaisir de passer ces moments, bien sûr, en votre compagnie. Et c'est un plaisir de revenir nous revoir. Comment ça va?
Bah, ça va très bien. D'autant mieux que je suis avec vous aujourd'hui, que ça m'a manqué.
Oh, merci beaucoup en tout cas. Donc voilà. Et comme tous les jeudis, vous avez rendez-vous avec Dr Mansour avec la chronique Instant d'Histoire. Puis qui, ouais, on s'en dit sur les mafias. Et notre stagiaire Aïcha, donc, vous parlera aussi de la rencontre du président avec les maires normands. Et Marion a été à la première conférence de presse de l'année de monsieur le maire Yvan Robert. Donc voilà, vous aurez tous les infos bien concernant ça. Vous voulez rajouter un petit quelque chose, non?
Non,
bah voilà, vous gardez ça. Bon, vers 17h15, donc vous avez rendez-vous avec Marion, donc vous découvrirez les nouveaux. Voilà, tout ce que monsieur le maire a prévu pour cette année.
Tout ce qu'il a dit.
Voilà, tout ce qu'il a dit, c'est exactement le bon propos. Donc voilà, et monsieur Damien vous parlera de King Arena, et puis de Renaud Lavillény, et puis de Perche Elite, c'est ça?
Oui, on revient tranquillement avec ce petit événement, voilà, pour ne pas perdre la main.
C'est exactement ça. Et moi, bien sûr, je vais vous parler de théâtre, d'étincelles, les AMAP, oui. Et puis, bon, Phil Darwin. Et surtout, nous sommes là, les HTRiens sont là. Le mix des cultures. Et puis, nous partons, bien sûr, en musique avec monsieur, comment ça s'appelle, Master X, donc, que nous avons reçu ici. Bah ouais, Aïcha, rigole pas. Que nous avons reçu ici, Master X, donc voilà, sur un album À mon image, donc À mon image, qui est sorti l'année dernière. Voilà, l'année dernière, en 2018, quoi. Voilà. Donc, Ralph sur les ondes de la radio HDR et le principe actif. Et tout de suite, on est parti en musique et nous revenons avec les petites sorties sur le territoire des Hauts-de-Rouen et de Grandmont. Ralph à mon image sur les ondes de la radio HDR et le principe actif. Pareil, pareil.
Chacun sa manière pour gagner. Combien de temps j'ai dû galérer. La vie de rêve, c'est ça que vous voulez. Ne plus voir ma famille pleurer. Tourner la page en écrivant des nouvelles lignes. Nouvelle vision apparaît chaque nuit. Tellement de prières, j'ai dû perdre la tête à trop faire. Ou la fête, ou c'est double qui me détruit. Aucune assurance, personne nous rassure. Beaucoup de regrets, aucun respect. Plus la volonté, j'ai plus le temps. Rien n'est gratuit, c'est ma choucrète. La maillère, bien sûr, c'est la base.
C'est la base, c'est la base.
Dans la vie, ça trouve les bases. Oh,
oh. Où il n'y a pas de sortie. Je ne suis que de passage. Une autre idée de maudit.
Pour la misère, des terres comme les enceintes qui n'ont jamais laissé tomber mon frère. Le frigo est plein, bébé va bien qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, ainsi va la vie. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, amen. Au nom des miens partis au ciel, j'en ai de la peine. J'pars du Coréen, j'suis parti pour me reconstruire. Je sais d'où je viens, donc je sais là où je veux finir. Passe-moi le mal, tranche des imbros. Pas de violence, tout est réclos. On n'est pas des macos, mais si tu touches à la mif, on changera d'état d'esprit.
Nous connaissons, t'as comment nous pleurer.
Master X, à mon image, donc l'album est sorti, donc ouais, au mois de... un petit peu avant décembre, voilà. Donc voilà, vous pouvez trouver sur les Facebook et tout ça, vous avez à taper, qu'à taper Master X, à mon image. Donc voilà, c'était Master X sur les ondes de la Radio FDR, et tout de suite, nous enchaînons avec l'actualité locale sur les Hauts-de-Rouen. Et aussi Gramont. Mais on va vous parler de Dol ici. Autour de nous, il se passe pas mal de choses. Par exemple, Étincelle, théâtre de la ville de Rouen, donc vous propose un stage percute. Donc c'est une pièce de théâtre qui mélange le boxe et aussi théâtre. Ouais, théâtre et boxe. Ouais, c'est ce que j'ai dit.
Ça va aller.
Donc voilà, vous vous dites comment ça se met en place, parce que voilà, les coups ont une percussion et aussi les mots ont une percussion. Donc voilà, je veux utiliser cet aspect de ces deux disciplines pour faire une pièce de théâtre qui mélange les deux. Donc voilà, ça se fait avec le groupe Chien Dent et aussi le club de boxe des Hauts-de-Rouen, qui est dirigé par Monsieur Farid, bien sûr, qu'on lui fait un petit coucou juste en face de la radio. Ce stage se déroule du 11 au 15 février de 14 à 18 heures. Pour les jeunes qui nous écoutent et qui seront intéressés, les places sont limitées à 12 et il faut avoir entre 11 et 17 ans. C'est gratuit avec inscription, bien sûr. Pour plus d'infos, allez directement à la salle Louis Jouvet, demandez Marine. Elle vous offrera le thé, le café. Bah ouais, j'allais dire ma blague, Aïcha, mais je ne la dis pas aujourd'hui pour le lait. Donc voilà, sinon, allez au club de boxe ici, demandez Monsieur Farid et puis voilà, vous aurez tous les infos concernant à cette discipline. Et puis, il y a quoi d'autre? Il y a M. Phil Darwin qui nous rend visite aussi, qui est un habitué aussi de ce quartier. Et il est souvent venu ici. Il est venu il y a quelques temps avec l'appui de M. Moïse Gomis, bien sûr, qui est le fondateur de cette radio. Et je vous propose de découvrir Phil Darwin.
Ça va? Oui! Non, moi, ça va pas. Non, sérieusement. Vous savez, J'ai à peu près tout ce que j'ai toujours souhaité dans ma vie aujourd'hui. Excepté l'amour. Non, c'est vrai, c'est assez particulier en ce qui me concerne parce que faut savoir qu'avec les filles, j'ai toujours eu un problème de taille. En fait, je mesure 1 mètre, virgule. Même la virgule, elle est petite. Non, le problème avec ma taille, c'est que quand je me rase, on me prend pour un mineur. Cette année encore, j'ai reçu la prime de rentrée scolaire. Non, mais sérieusement, quand je me rase, on me prend pour un mineur. Je suis allé en vacances l'été dernier au Congo. J'ai pris Air France, la classe. Je me suis rasé, beau gosse. Et là, il y a une hôtesse de l'air qui arrive, qui se met pile en face de moi. Oh, qu'il est mignon, ce petit bout de chou. Alors qu'on s'en voyage tout seul. Comme un grand. Allez, Arnold, dis-moi, il est où, Willy? Alors depuis ce jour-là, je me laisse pousser la barbe. Enfin, ça n'a pas changé non plus grand-chose. Il y a 2 semaines, je me tenais dans un jardin public avec beaucoup plus de barbe que Ben Laden. Il y a une fille qui passe en courant. Oh mon Dieu, c'est la première fois que je vois un nain de jardin noir, hein. Cette phrase a changé toute ma conception de la vie. Depuis cette phrase-là, je suis à 100% pour l'égalité entre l'homme et la femme. Ça veut dire que la prochaine femme qui se fout de ma gueule... Non, mais rassurez-vous, je suis pas à l'âge pour autant. Et à ce propos, il y a un homme à qui j'aimerais bien casser la gueule. Vous connaissez celui qui a inventé les talons aiguilles? Mais il a gâché toute ma vie. À l'école, toutes les filles sur des talons aiguilles. Salut Phil, comment tu vas? Tu vas bien? Salut Phil, tu vas bien? Et je vous raconte pas le cauchemar quand elles me font la bise. On dirait une girafe qui boit au lac.
Voilà, c'est Monsieur Phil Darwin. Donc à partir du... Non, c'est le samedi 26 janvier, donc à Centre André Malraux. Donc voilà, donc les AMAP font leur cabaret. Donc il y aura Phil Darwin, KDSA, et puis il y a le Bang Bling Bang. Donc et puis ouais, c'est ça. Donc il y aura ces trois artistes qui seront sur scène pour vous servir. Puis il y a plein d'autres choses. Il y aura un repas et aussi vous découvrirez les saveurs de cette association, enfin, ces réseaux AMAP, donc voilà, qui s'occupent un peu de la paysannerie un peu locale. Et ils vous proposeront toutes leurs recettes, leurs fruits, leurs légumes, voilà. Et oui, je vous vois, vous êtes inspiré, Aïcha, ça vous kiffez ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Moi, je pense que c'est l'histoire de ma vie, tout ça.
C'est vrai?
Ok, je suis c'est le parti. Nain de jardin roux.
Oh, d'accord, ok, je savais pas.
Ça lui rappelle des souvenirs. En fait.
Hier encore. Hein,
Ah oui, on t'a pris pour un nain de jardin. D'accord, ok, bah écoute, c'est parti. Et on va partir en musique et puis nous allons venir pour avoir des nouvelles de Monsieur le maire à travers les yeux de...
Marion.
Ouais, je le savais. Merci Marion. Donc voilà, nous partons en musique avec le peuple de l'herbe, bien sûr, que nous adorons ici et que nous l'écoutons bah, depuis tout ce temps. Voilà, juste après, vous avez rendez-vous avec Marion pour découvrir la conférence de presse de Monsieur le maire et tout ce qu'il a dit. Ok, on est
presque
parti.
tout.
Presque tout.
Faire un petit, hein?
Yo, road boy, I want my night chalice.
Le peuple de l'herbe, bien sûr, sur les ondes de la radio HDR, il est 17h, quasiment 17h15, et vous avez rendez-vous tout de suite avec Marion, bien sûr, juste après ça.
Le mix de toutes les cultures, 99.1.
Ça sonne bien. Donc voilà, bah, tout de suite, bah, Marion, vous allez nous parler de Yvan Revert. Donc,
oui, le maire de Rouen.
Le maire de Rouen.
Alors, le mardi 15 janvier, se tenait la conférence de presse à l'hôtel de ville de Rouen à l'occasion des vœux de Monsieur Yvan Revert, le maire de Rouen. Ce que j'en retiens principalement, c'est l'intercommunalité, l'engagement dans la transition écologique, l'éducation, l'accès à la culture et également l'importance de la proximité avec les habitants. Alors, pour être plus explicite, bien que je ne souhaite pas vous résumer tout le discours, puisque sinon ce serait trop long et que je pense qu'on va en perdre certains, Monsieur le maire a tout d'abord évoqué les manifestations qui touchent notre pays. Je pense que je n'ai pas besoin non plus d'en dire plus, étant donné que nous sommes tous plus ou moins au courant. En ce qui concerne la transformation de la ville, il y a une vraie volonté de s'engager dans la transition écologique et de favoriser la proximité avec les habitants afin d'échanger avec eux et agir ensemble. Rouen, tout comme son agglomération, a été reconnue à l'échelle nationale en remportant deux prix, le Grand Prix national du paysage et le Grand Prix des victoires du paysage décernés par le public et le jury. Et impossible d'imaginer cette nouvelle année 2019 sans renouveau, puisque sans renouveau dans une métropole telle que Rouen qui comprend 71 communes, on s'installe comme dans une certaine routine. Eh bien, pas de panique, la nouvelle ligne de bus T4 sera bel et bien fonctionnelle, quand je sais pas, mais en tout cas c'est pour bientôt. On continue avec les bonnes résolutions de 2019, les travaux à la patinoire de l'Île-la-Croix débuteront en février. De plus, 2019 marque la fin de la rénovation du Jardin des Plantes, qui peut d'ailleurs être apparenté au patrimoine historique sur la rive gauche. Concernant la transition énergétique, elle est rendue possible grâce aux subventions de l'État gouvernemental et sera appliquée notamment dans les écoles et bâtiments municipaux. Je vous propose d'écouter un extrait d'interview sur la place du citoyen.
Autrement la vie municipale, et c'est ça que j'ai trouvé aussi passionnant par rapport à des tas d'autres fonctions que j'ai pu occuper, des tas d'autres responsabilités que j'ai pu occuper. Ce qui est extraordinaire dans la vie municipale, c'est de pouvoir travailler avec les citoyens. Je l'ai fait lorsque je pilotais la construction du tramway il y a 30 ans. Je l'ai fait lorsque j'ai créé les conseils de quartier en 96. Je l'ai fait dans la période récente, on va pas tout reprendre. Je l'ai fait lorsque nous avons passé un an à concerter sur les rythmes scolaires. Je veux dire, à la fois pour expliquer, pour répondre, pour discuter. Je veux dire, les citoyens ont choisi, je veux dire, quelque chose qui ne correspondait pas à ce que je souhaitais, mais ensuite je mets en œuvre, je veux dire, parce que c'est aussi quelque chose, ce qu'on fait est bien. Donc il y avait deux possibilités, ils ont choisi. Et l'appel à projet citoyen, c'est une autre manière. Ce qui est important, c'est de trouver, je veux dire, sur tous les types de projets, sur tout ce que l'on fait dans une ville, les modalités d'association. On ne peut pas tout élaborer à 100 000. Ça, quoi qu'il arrive, ça n'existe pas. Et il y a des projets où, je veux dire, il y a une proposition qui est faite par les équipes municipales. Cette proposition va être discutée une fois, deux fois, dix fois. Et petit à petit, on affine. C'est ce qu'on a fait avec Cœur de Métropole. Nous avons proposé toute une série d'aménagements et nous avons eu des réunions, des rencontres. Je veux dire, il y avait des rencontres sur le terrain. Et tout au long des travaux, j'ai un adjoint de quartier, des adjoints de quartier qui suivent avec les habitants. C'est tout ça, c'est une manière d'associer les habitants. L'appel à projet dans le cadre d'un budget, avec un cadrage, parce que là aussi, je veux dire, associer les habitants, c'est à chaque fois dire dans quelles conditions. Ça ne peut pas être tout... Encore une fois, je veux dire, construire un mode de transport en site propre, c'est pas, je veux dire, il faut qu'il y ait un projet, une perspective, en expliquant pourquoi. Ce que nous avons fait avec la T4, je rappelle, la T4, je veux dire, c'est dans le programme de Valérie de Fournéron en 2008, parce que nous croyons tous à l'importance des transports en commun en site propre dans une ville. L'appel et projet citoyen, c'est sur un budget d'1 million sur 3 ans, des projets qui avaient une enveloppe financière limitée. Chaque projet, mais que nous allons... Alors, je vais dire à citoyen, si vous avez une idée, proposez-la et essayez de la travailler. Mais de toute façon, une fois qu'elle a été proposée, donc ça a permis de choisir, mais maintenant, tout le travail est à faire. Mais toujours avec celui qui a eu l'idée. Mais c'est un travail qui va associer les conseillers de quartier, qui le voudront dans les quartiers concernés, les services de la ville, bien entendu, les élus concernés. Chacun des 18 projets qui va être mis en œuvre, je veux dire, va supposer, dans l'année qui vient pour certains, dans les 2 ans qui viennent pour d'autres, un travail collectif.
Donc voilà, vous venez d'entendre Monsieur le maire de Rouen, Yvon Lobet, Robert bien sûr. Donc oui, Marion.
Ces appels à projets se concrétisent sur l'ensemble des quartiers de Hauts-de-Rouen et de Gramont, comme par exemple le projet à la Grand-Mare qui verra bientôt le jour et qui répondra à la problématique de comment bien accueillir les retraités. Le but serait de favoriser l'échange intergénérationnel dans un établissement dédié et aux personnes âgées et aux étudiants, un beau projet à venir. Le maire a également évoqué le deuxième plan de rénovation urbaine pour le quartier des Hauts-de-Rouen. L'éducation fait partie de ses priorités et son but principal est d'intégrer de plus en plus de nouvelles technologies dans les écoles. Il s'engage également dans la formation d'animateurs pour les activités extrascolaires du mercredi après-midi par exemple. Le budget de l'éducation est l'un des budgets les plus conséquents et importants puisqu'il comprend aussi bien l'école, l'engagement associatif que la culture. Et l'accès à la culture sous toutes ses formes pour la jeunesse est primordial. Écoutons un extrait sur le soutien des actions citoyennes et associatives de la ville.
Elles ont des projets. Chaque année, il y a des projets qui sont proposés et qui sont choisis dans le cadre du contrat de ville en liaison avec les acteurs que nous mettons en œuvre année après année. Il y a toute une série d'actions qui ne tiennent que parce que, on en parle et elles sont mises en œuvre collectivement. Alors, il y a une que j'ai trouvée particulièrement intéressante et qu'on va continuer, c'est ce qu'on appelle les marches citoyennes, c'est-à-dire qu'il y a 5, 10, 15 personnes qui habitent dans le quartier, qui vivent dans le quartier, notamment des femmes, et qui, se promènent avec des acteurs, c'est-à-dire avec des ingénieurs et techniciens des services de la ville, des élus, et qui réagissent à l'aménagement ici, l'aménagement là, ce qu'on pourrait faire, ce qu'il faudrait faire dans les années qui futures. C'est une modalité qui me semble extrêmement intéressante et que l'on va continuer. C'est un exemple parmi d'autres.
Le maire privilégie l'intercommunalité pour l'élaboration de projets collectifs qui visent à améliorer les conditions de vie des habitants de Rouen et qui œuvrent pour le bien-être de tous. Pour soutenir les actions citoyennes et associatives dans les quartiers prioritaires de la ville de Rouen, des appels à projets citoyens sont lancés afin d'impliquer tout le monde dans la vie de sa ville, le but étant de pouvoir laisser la parole à chacun. Pour finir, rien de tel que l'évocation de l'Armada qui se veut être un événement fédérateur et qui permet de renforcer l'identité de Rouen en tant que port maritime. On finit ainsi en beauté et en légèreté, alors je n'ai qu'une chose à dire, cultivez-vous et soyez curieux.
Merci pour ces précisions. Et puis Damien, alors qu'est-ce que tu as pensé du discours de monsieur le maire?
Moi, autant je suis régulièrement plein de critiques à l'encontre de monsieur le maire, autant je trouve que s'il y a bien un truc qu'on peut partir à Rouen, c'est que c'est une ville qui bouge, qui vit, où les transports en commun sont bien organisés. Moi, j'attends de voir. Je paye pour voir de quoi demain sera fait.
Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci pour ces précisions. Et puis, nous partons en musique tout de suite. Et juste après, bien sûr, vous avez rendez-vous avec vos habitudes, comme tous les blabla jeudi. Avec la chronique de Dr Mansour, bien sûr.
Oh, Radio HDR 99.1, Radio HDR 99.1, les mix des cultures.
Le mix des cultures.
On dirait du portugais.
Les mix des cultures.
Ouais, merci à Lorenzo, merci à Mathieu. Ben, c'est sûr que ça ressemble à ma voix, mais c'est pas moi, Damien, je te le dis, c'est pas moi.
J'en douterai toujours.
Bon, on le fera vérifier. Donc oui, aujourd'hui, vous allez nous parler de King Arena et aussi de ce grand champion donc, qui vient visiter notre ville, Rouen. Alors, qu'est-ce que vous allez... Je te sens inspiré, Damien.
Ah, mais je suis, matin, je quand on parle fond. De sport, je suis enthousiaste comme pas possible. Là, en plus, c'est le Perche Elite Tour. Alors, c'est un circuit international de saut à la perche qu'on connaît bien à Rouen. Je ne sais pas pourquoi je le présente, puisque c'est quand même la 6e fois consécutive qu'il vient par chez nous, donc au Kind Arena, évidemment. Et parmi son lot d'athlètes, donc, on trouve un grand champion olympique, recordman du monde du saut à la perche, avec quand même un saut de 6,16 m, qui est quand même pas mal. Mm-hmm. Le Charentais Renaud Lavillény, donc, qui a également à son actif le fait d'être le seul Français à avoir jamais remporté l'étape rouennaise du Perche Elite Tour, et ça fait plaisir. Et il n'a pas fait une fois, il l'a pas fait deux fois, mais il l'a bien fait trois fois d'affilée.
J'ai un doute, ça fait plaisir parce qu'il l'a jamais gagné à Rouen, ou c'est quoi?
Non, ça fait plaisir parce que c'est le seul Français à l'avoir gagné à Rouen, et ça fait quand même plaisir car Rouen, on est des champions qui viennent. Bon, alors évidemment, il n'est pas rouennais, mais enfin, ça fait plaisir quand même. Et donc, il a bien gagné trois fois d'affilée 2013, 2014 et 2015, et ça fait donc 4 ans. Que le champion n'a pas remporté l'étape rouennaise de cet événement, et on n'a donc aucun doute que cette année il sera très chaud, et peut-être même qu'avec un peu de chance, on ne sait pas, il battra son propre record du monde à Rouen ici et marquera l'histoire encore une fois de notre ville. Donc c'est à ne pas manquer, et ce sera au Kind Arena le samedi 9 février, tarif plein 19€, tarif réduit 14€, et bien sûr pour réserver, obtenir les billets, c'est sur le site que ça se passe, le site du Kind Arena, comme d'habitude.
Par leur haine pourchassée. Je suis l'âme par leurs horreurs torturées.
I'm not afraid to die.
Voilà, une Algérienne debout de Manu Chao et Idir. Donc voilà, sur les ondes de la radio HDR, bien sûr, et de Principe Actif. Nous allons enchaîner, bien sûr, avec la chronique de tous les jeudis, bien sûr, de la chronique de jeudi, avec Instant d'Histoire avec Dr Mansour, qui n'est pas là physiquement. Mais nous avons pensé toujours à vous, mes chers auditeurs, et nous vous avons trouvé la chronique qu'il vous faut. Et justement, bon, donc, cette chronique, donc, ce feuilleton, bien sûr, donc, qui nous parle l'histoire et la naissance et l'évolution des mafias dans le monde. Et aujourd'hui, on va vous parler de Meyer Lansky, Lucky Luciano, Al Capone, les Siciliens, les Napolitains, bien sûr. Donc, tout de suite, écoutez Dr Mansour sur les ondes de la radio HDR et de Principe Actif.
Juste pour bien clarifier, la criminalité à New York n'a pas commencé avec ces fameux immigrés italiens.
Ok.
Elle était déjà là bien avant, et bien avant le 19e siècle. En fait, ça a commencé, si pour ceux qui ont vu le film Gang of New York,
ouais.
On voit bien qu'il y avait les Hollandais.
Oui.
Les Finlandais, les Français, les Anglais, les Italiens, les Espagnols, et tout ce beau monde se partageait des coins de quartier. Ils voulaient avoir accès au port et tout ce qu'ils pouvaient traficoter. C'est du gangstérisme, hein, c'est pas encore la mafia, hein, c'est vraiment du gangstérisme pur et dur. Mmh. Mais il faut savoir que ça avait bien commencé bien avant, en fait, encore. Pendant la Révolution américaine, en fait, il y avait déjà des gangs semi-organisés, et en fait, ça a commencé surtout dans le Nord-Ouest et... le long de toute la frontière. Et en fait, ces gangs qui étaient organisés profitaient un peu de la guerre pour justement acquérir des richesses ou mieux vivre, déjà.
Bien sûr.
Et les récits de l'époque en font beaucoup mention. Et pendant la guerre de sécession, ça n'a fait qu'augmenter.
D'accord, ok. Et donc, après, le cliché qui est véhiculé en disant que les Italiens, ils sont venus avec leur criminalité, leur gangstérisme, en fait,
non,
c'est juste...
tout était déjà là.
Yeah, okay.
Tout était déjà là. En fait, il manquait juste une petite chose pour que ça devienne... ce que ça va devenir. Et d'ailleurs, ça commencera que tout doucement. Ça va être un peu tard. Ça va commencer en même temps que réellement ce qui va s'organiser en Italie.
Mmh.
Donc en fait, c'est vers 1880 à peu près, 90, où ça va commencer à s'organiser.
Mmh.
Mais il faut savoir que aux États-Unis, quand on arrive, il y a toujours cette fameuse statue de liberté. Vous avez vu ça dans plein de films, à mon avis.
Mmh.
Et quand ça arrive, quand en fait en 1890, donc là, il y a vraiment une grosse masse d'Italiens qui arrivent.
Mmh.
Et en fait, parce qu'il y a des travaux un peu partout, et on essaie de trouver des gens un peu plus c'est-à-dire opérationnel, qu'on peut payer à bas prix. Hein. Déjà, les patrons à l'époque cherchaient déjà ça. Et c'est là que la mafia, entre guillemets, sicilienne réellement s'installe en 1890, avec l'arrivée d'un des parrains, en fait, de Sicile, Antonio Morello.
D'accord.
Et c'est lui, en fait, quand il va arriver, il va commencer à organiser sa propre communauté. Et comme déjà à l'époque, la Camorra commençait vraiment à prendre de l'ampleur, donc à New York, il y a une espèce d'entente cordiale.
D'accord.
Entre les Siciliens et les Napolitains. Contre les autres. Et pas avec les autres. Hein. Pas. Savoir, c'est contre les autres. On s'organise contre les autres, on ne s'organise pas pour soi au départ. Donc, ce qu'on peut dire, quasiment, ce sont des gangs nationalisés ou ethniques, réellement. Il y a les Italiens d'un côté, les Hollandais d'un autre. Et une fraction qui est à part, qu'on appelle vulgairement la mafia juive, qui est là un secteur en particulier. Et d'ailleurs, tous sont toujours à Coquino au port. Hein. Parce que c'est par là que tout transite.
Bien sûr.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir vraiment des quartiers entièrement criminalisés. Mais criminels dans le sens où ils font leurs affaires.
D'accord. Oui.
Entre eux, et il y a la loi du silence dans chaque quartier. Il faut savoir que si j'étais irlandais, si je devais passer dans le quartier italien, je devais passer un passe-droit. Je devais payer pour un passe-droit.
D'accord.
Et on passait pas comme ça, c'était pas gratuit. Hein.
D'accord, ok.
Et puis il fallait se dépêcher. Ah. Donc c'était très particulier, un peu comme ambiance. Et cette famille, en fait, quand elle s'installe, elle organise, elle essaie de réguler et elle importe en fait les règles siciliennes.
D'accord, c'était la petite chose qui manquait.
Voilà. Donc là, on va avoir un par un qui va commencer à hiérarchiser entre les simples soldats, les lieutenants, et après ceux qui sont vraiment, qui arrivent au plus haut, les affranchis. Et il y a le code d'honneur qui s'installe, c'est-à-dire on ne tue pas les enfants, on ne s'attaque pas aux vieillards ni aux femmes. Sauf en cas d'ultime nécessité.
Bien sûr.
Et on ne tue pas gratuitement. Jamais. Si on vous dit de ne pas toucher un tel, on n'y touche pas. Par contre, si je te dis d'exécuter un tel, tu ne poses pas la question à savoir pourquoi. Tu dois le faire.
D'accord.
Donc les règles sont extrêmement strictes. Et c'est là qu'apparaît un jeune homme, Salvatore Luciana, de son vrai nom, qu'on connaît sous un autre nom. Donc alors lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a écrit sa biographie.
Lui-même ?
Lui, entre guillemets, c'est plus un entretien avec un journaliste. Et là, en fait, il explique quelque chose d'assez particulier. Il dit que, en fait, cette vocation de venir aux États-Unis vient en réalité de son père. Il disait que son père, chaque année, achetait un calendrier, notait, et en fait, il faisait des économies dans un vase qu'il cachait, en disant, un jour, on partira tous ensemble. Et son père, beaucoup trop fier pour demander de l'argent à qui que ce soit, en Sicile, hein, bah, il ne demandait rien à personne, ni même aux parrains, ni à la mafia, ni rien du tout. Il voulait vraiment y arriver par lui-même. Donc ce rêve américain est en train de l'habiter, lui aussi. Et en fait, c'est ils vont y arriver grâce, justement, à un de ses cousins de son père, Rotolo, qui va faire en sorte que, bon, il va quand même lui donner de l'argent, il ne va pas lui prêter. Parce que le père de Salvatore refuse qu'on lui prête de l'argent. Mais là, on lui donne. C'est la famille qui lui donne. Là, un peu plus dur. Et en fait, il a... Luciano, qu'on pourrait appeler après Luciano. Charles.
Charles Luciano.
Il a 9 ans, en fait, quand il arrive aux États-Unis avec ses parents.
Ah, il a 19 ans ?
9 ans.
9 ans, d'accord.
Tout juste 9 ans. Donc, en fait, il va s'installer dans un petit appartement. Et en fait, alors c'est là qu'il a la curiosité. C'est qu'il ne s'installe pas dans le quartier italien. Alors... Il ne le dit pas clairement, mais on pense que c'est une volonté de son père de ne pas s'installer dans le quartier italien et surtout pas le quartier fréquenté par les Siciliens.
D'accord.
Ce qu'on appellera le Harlem italien, Italian Harlem. Et en fait, il va s'installer dans le Lower East Side, à Manhattan, juste à côté, le quartier juif.
Ah, d'accord.
Cette destination est c'est assez particulière parce qu'en fait, elle était surtout prisée par la middle class italienne. Alors que lui, il n'en fait pas partie.
D'accord.
C'est juste un simple ouvrier. Et il s'installe là. Et en fait, on considère qu'en fait, ce petit, en fait, il préfère l'école à la rue déjà. Il a déjà une particularité par rapport à ceux de l'autre quartier qui traînaient plus dans la rue, qui abandonnaient très vite l'école. Mais bon, le problème, c'est que il y a beaucoup de violence. Malgré dans ce quartier-là, il y a beaucoup de violence. Mais en fait, il ne se laisse pas faire. Et c'est là qu'il va commencer à gagner $7 par semaine en faisant livreur de chapeaux.
D'accord.
Il livre des chapeaux à droite à gauche. Qui dit chapeau, dit qu'on va commencer à avoir des gens
bien sûr.
De toute strate sociale et surtout ces fameux mafiosi qui s'installent de plus en plus et, comme on avait dit, qui aiment s'habiller.
Bien sûr, bien sûr.
Mais en plus, là, il va se découvrir une autre passion. Alors, il a toujours 14-15 ans, c'est le jeu. Quand il va gagner en l'espace d'une journée 244 $. Vous multipliez, hein, 7, il gagnait 7 $ par semaine et là en une journée il en gagne 244.
Ouais.
Ça fait beaucoup. Il va quitter son emploi pour faire quoi ? Pour gagner de l'argent dans la rue et miser sur le jeu de hasard. Et il va commencer justement à racketter. Parce qu'en fait, il y a des gens qui commencent à un peu à l'observer. D'ailleurs, il y a une expression plus en anglais, Brooklyn Truant School. Donc, la rue des truands. Donc, et en fait, il est à peine adolescent, là. 3-4 ans après, il va former le Five Point Gang. Ouais. Son premier gang, entre guillemets. Et là, les mafieux italiens commencent vraiment à l'observer parce qu'ils voient qu'il a une âme d'un chef. Ouais. Il débarque quasiment nulle part. Il n'est pas né aux États-Unis. Et il arrive à engrainer des gens autour de lui parce que là, c'est vraiment engrainé. Et en fait, il a une facilité, c'est que c'est un donneur d'ordre. Il se salit de moins en moins les mains. Il met moins en moins la main à la pâte. Et en fait, il va même faire quelque chose, c'est que c'est là où il a un jeu un peu de duplicité. Il envoie ses hommes, qui sont tous des jeunes hommes en fait, racketter des petits juifs.
Oui.
Et lui vient derrière et dit, moi je vous offre ma protection. Pas de chance pour lui, il y en a un qui ne se laissera pas faire. Un certain Lambsky, justement. Et d'ailleurs, à l'époque, cordialement, les deux se détestent. Après, la destinée des deux hommes est extrêmement particulière par rapport à ça. Donc, à l'époque, il voit qu'il y a des gens qui commencent à monter en puissance. Et durant cette jeunesse, en fait, il va rencontrer ce qui va changer sa vie. Et d'ailleurs, ce personnage-là, on en viendra un peu plus tard, Al Capone.
Al Capone, il faisait partie de sa première gang.
Et lui, c'est Chicago.
Chicago, bien sûr.
Donc, de New York à Chicago. Et en fait, il va prendre une leçon avec cet homme. Alors, Al Capone, qu'on appelle Scarface, à cause d'une balafre qu'il avait, qu'il cachait avec du fond de teint. Ah, les petites coquetteries, hein.
Bien sûr. Mais on est. J'aimerais bien juste qu'on s'arrête un peu sur le Meyer Lansky. Parce que lui aussi, c'était quelqu'un qui avait la maîtrise des jeux de hasard.
Ouais.
Et c'est d'ailleurs pour ça que les Italiens vont l'intégrer dans leur équipe facilement, parce qu'il pouvait. Il pouvait calculer les proportions, ou comment dire ça, les probabilités de gagne ou de perte. Donc
oui.
Il deviendra le monsieur cerveau.
En partie, il deviendra le cerveau, mais bien avant lui, il y avait quelqu'un d'autre.
Ah, ok.
Et en fait, Meyer Lansky doit tout à un certain Arnold Rothstein. Arnold Rothstein, vous connaissez si vous avez déjà vu le film Gigsby le Magnifique.
Oui.
Ça a inspiré un des personnages.
D'accord, ok.
Parce que... Rothstein est un génie, à proprement parler. En fait, même son avocat dira que Rothstein était capable d'entendre une souris à l'intérieur d'une porte. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le surprendre. Rothstein s'est spécialisé dans le jeu.
D'accord.
Et en fait, non seulement il s'est spécialisé dans le jeu, parce que lui disait qu'il ne voulait pas gagner de l'argent que comme ça. Et il savait qu'une chose, c'est qu'il avait besoin d'argent. Mais dans le jeu, pas n'importe quel jeu. Parce que... Rothstein est à l'origine du scandale des White Sox, l'équipe de baseball.
Oui, en fait, si.
Alors, Rothstein disait que, en fait, pour lui, c'est simple. Je peux parier sur tout, gagner de l'argent sur tout, arranger tout, m'excuser pour tout, sauf pour la météo. Voilà. À mon avis, c'est qu'il avait trempé dans toutes les affaires possibles et imaginables. Et d'ailleurs, son surnom, c'est Big Brancol. Brancol, c'est les grosses liasses de billets. Et lui,
d'accord,
c'était des billets de $100.
C'était pas lui qu'on disait qu'il avait, pour la première fois, il avait réussi à truquer le championnat de baseball des États-Unis.
Voilà.
Donc c'est lui.
Voilà. Okay. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Bromsky, qui est un génie au niveau de la finance en réalité, dans son monde à lui,
oui,
qui est illégal, mais il se sert d'un système légal pour gagner de l'argent.
Donc,
en fait, il était pas très doué en arithmétique quand il était jeune. Il a appris sur le terrain apparemment. Et en fait, à 16 ans, Rothstein n'avait été plus à l'école. Il a travaillé, en fait, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a travaillé pour la fabrique de vêtements. Il était vendeur itinérant.
Ouais.
Et en fait, toute sa, jusqu'à à peu près 20 ans, il reste à peu près correct. Mais c'est quand il va découvrir les courses de chevaux et comment on peut truquer les courses.
D'accord. Et là, ça lui a travaillé la tête.
Ça a plus que travaillé. Parce qu'en fait, non seulement ça l'a travaillé, mais il va trouver un autre système. Non seulement il parie, mais il gagne. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il parie sur plusieurs étals. Mais il prête de l'argent aux parieurs, en leur donnant des faux tuyaux pour la plupart, à un taux de 25%.
Mmh. Ouais. C'est sûr que lui, il va pas traîner trop dans la rue.
Non, mais c'était son but, hein. Donc, en fait, c'est lui qui le scandale de 1919, hein, sur le World Series. C'est lui, parce qu'il avait saboté quasiment plus de la moitié des matchs.
Bien sûr.
En payant certains joueurs, en payant certains arbitres. En fait, il avait quasiment soudoyé la moitié de tout le championnat.
Mais écoute, en fait, fallait le faire.
Ouais. Et en fait, on suppose, parce qu'en fait, on n'a jamais eu le vrai chiffre. Alors, pour l'époque, il faut savoir que c'est colossal. Pour ce championnat-là, il aurait misé 270 000 dollars. C'est pour savoir à peu près ce que ça représente aujourd'hui, il faut quasiment rajouter un zéro.
200 millions ?
2 millions.
2 millions, ok.
Juste sur un championnat. Pour un seul et unique homme. Pour remporter, et en fait, il avait parié sur les Red Sox contre les White Sox. Mais il s'est fait surprendre, du moins. Même le jury, ils ont. En fait, quand il était devant les juges, il a nié. Mais il a tout nié. Et en fait, le plus, c'est son ancien associé qui a payé à sa place. Et son ancien associé ne l'a jamais dénoncé.
Ouais, on n'est pas surpris.
Non. Et en fait, c'est 2 ans après où il avouera que c'était vrai, que c'était lui qui l'avait entourloupé tout le monde. Donc il était un peu trop sûr de lui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne sera pas très aimé, plus ou moins pas trop aimé, ni par les autres mafieux, parce qu'en fait, la mafia a une particularité. Le silence.
Bien sûr.
Faut pas croire qu'elle est silencieuse, qu'elle est faible. C'est bien tout le contraire. Plus elle est silencieuse, moins il y a de violence, plus elle est puissante.
Oui.
Parce qu'ils vont s'infiltrer. Et d'ailleurs, dès 1919, c'est là qu'on va commencer à voir le cheminement de chacun, parce qu'il y a la prohibition qui arrive.
Oui.
Donc certains vont commencer à sauter dessus en comprenant ce qui est en train de se passer, dont Al Capone, Lamsky et Luciano, lui aussi déjà, il est déjà dans le coup. Mais la particularité de ces trois-là, en fait deux, parce que Lamsky et Luciano vont quasiment être une équipe à un moment donné.
Bien sûr.
Al Capone aime la communication, aime se montrer. C'est tout. Et les autres, c'est tout l'inverse.
Oui.
Totalement l'inverse. Oh, c'est quasiment, c'est pas pour dire qu'Al Capone est un petit, mais sur ce coup-là, Al Capone est quasi immature.
Mais
sur le reste, il est beaucoup plus mature, mais sur l'image que la mafia voulait donner d'elle-même, il gêne. Il parle trop. Il se montre trop.
Trop.
Et en plus, il met des costumes qui sont trop flashy.
Flashy. C'est ça, ben ça le conduira à sa perte, bien sûr. Mais les Napolitains, apparemment, c'est vraiment Napolitain, parce qu'Al Capone, il est originaire de Naples.
Naples.
Donc, les Napolitains, c'est plutôt des gens qui sont extravagants.
Ouais, extravagants, d'ailleurs, c'est ce que j'avais expliqué dès la première. La différence entre, bon, on ne va pas parler des deux autres mafias qui sont en Italie, mais entre la Cosa Nostra de Sicile et la Camorra, la plupart d'entre eux sont tatoués.
Oui.
Ils ont une marque distinctive. Ce qui n'est pas le cas des Siciliens. Les Siciliens sont plus discrets.
Mmh.
Alors, juste une anecdote, mais ça, c'est vrai que c'est arrivé dans les années 40, 50. On donnera le nom plus tard, mais un des mafieux, quand on avait perquisitionné chez lui, on savait qu'il avait des centaines de milliers de lire italiennes.
Mmh.
Il avait des objets d'art. Personne ne lui a rien dit. Les parrains lui ont reproché d'avoir acheté des pulls en cachemire. Parce que c'était voyant. Vous voyez le degré, ça peut paraître comique, mais en fait on le comprend mieux. Allez en Sicile, regardez les gens comment ils sont.
Bien sûr.
Les femmes des parrains siciliens, c'est des femmes banales.
Bien sûr.
Alors qu'à Naples, non, on les voit, on les reconnaît. Parés de bijoux, tout le reste. C'est vrai que c'est deux mondes totalement différents, et voire même opposés en réalité.
Oui, oui.
Et d'ailleurs, la mafia napolitaine est plus violente que la sicilienne. Hein. Parce que les Siciliens, ils règlent toujours, ils essaient toujours de régler ça d'une autre façon.
Mmh.
Et par rapport à la napolitaine, bah, juste pour finir la chronique, juste un extrait d'un film. En fait, c'est Lucia de la Guapé. Et Guapé, c'est la petite délinquance.
Oui.
Et en fait, dans ce film-là, ils ont reproduit ce qu'on parlera la semaine prochaine justement par rapport à ça. Une initiation.
Avancez. Que désirez-vous ?
Je désire devenir membre honorable.
Que signifie membre honorable ?
18 onorata significa servo dei Camorris.
Serviteur des Camorris. Qui a du miel dans la bouche.
Che tiene.
Et un rasoir dans le cœur.
Et perché?
Et pourquoi?
Il miele serve per addolcire le questioni.
Le miel sert à adoucir les questions et le rasoir à supprimer les infamies. Je ferai mon devoir.
Ed ora,
baisez la main de votre chef. Vous êtes notre frère de chair pour la vie et la mort.
Donc, cet extrait qu'on vient d'entendre.
Donc, c'était la reproduction d'une initiation, d'une intronisation. Un jeune qui arrive et qui va devenir camorriste, c'est-à-dire un homme d'honneur.
D'accord.
Donc là, il est rentré dans la famille de la mafia, il ne pourra plus jamais ressortir. Parce qu'une fois qu'on est rentré, pour sortir, c'est un peu plus compliqué. Et même quand on ressort, c'est généralement entre quatre planches.
Et ben voilà, donc vous aurez compris, donc c'était le troisième épisode donc, que nous avons rediffusé parce que Dr Mansour ne pouvait pas être là physiquement. Et puis, bah ouais, donc c'est les petits bruits de...
C'est rien.
C'est rien, Mario, bien sûr. On est en direct et c'est la vie. Bah ouais, ça prouve seulement qu'il y a de la vie ici. Et en dehors de ces machines, il y a des cœurs qui se battent derrière ces micros. Et
c'est
oui, Damien.
C'est trop mignon.
Oh là 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 là. Bah voilà, donc bah, jeudi prochain avec Dr Mansour, bien sûr, pour la suite de ce feuilleton sur les mafias. Bien sûr, je précise bien les mafias parce que la mafia n'existe pas. Nous allons bien sûr enchaîner avec notre collègue Aïcha, donc qui a regardé pour vous, écouté pour vous, Monsieur le Président, qui fait. Ouais, c'était le tout premier voyage de ce move. Enfin, comment ils appellent ça encore?
C'est sa première démarche, oui, pour le grand débat national.
Le grand débat, donc c'est la toute première étape. Donc il était en Normandie et pour ça, on était obligé de écouter pour vous. Et Aïcha l'a fait pour vous. On est là, en direct,
voilà,
c'est pour vous.
C'est ça. Ben, en fait, j'ai fait surtout un petit résumé de l'info, en fait. Mm-hmm. Parce que, voilà, résumer 7 heures de dialogue, ça serait assez difficile.
Oui.
Surtout avec les 5 minutes que tu nous as laissées.
Merci.
Non, oui. Donc, vous imaginez le paysage, c'est 653 maires exactement qui sont réunis autour du président de la République, mm-hmm, pour poser sur table leurs questions, leurs interrogations et tout ce qui va... surgir plus tard, en fait, dans le grand débat national. Mmh. Et donc, c'était mardi dernier, en direct d'un gymnase à Burtroold, en fait, dans l'Eure. Mmh. Alors, c'était un gymnase qui a été encerclé par les forces de l'ordre, une place inaccessible, en fait, dans la ville. C'était vraiment mis sous cloche, donc pas d'accès. En même temps, c'était des précautions à prendre avec les mouvements dans ce moment, en fait. C'est vrai que, oui, d'accord, c'est assez risqué pour le président de la République de sortir en ce moment... Il a ses précautions à prendre.
Ouais, je sais pas qu'est-ce qui n'est pas risqué pour lui en ce moment.
Voilà.
Damien,
c'est le contexte. C'est le contexte. Alors voilà, et donc c'était pas vraiment ce qu'on pouvait appeler un débat comme première démarche dans le débat national. C'était pas exactement un débat. C'était plus un dialogue en fait, deux ou trois questions posées par chaque maire en fait, mm-hmm, et Emmanuel Macron qui répond à quasiment toutes les questions. Un dialogue qui a duré 7 heures d'affilée. De 15h30 à 22h10. Oui, c'était lent à suivre. C'était pénible, aussi bien pour les maires, pour le président de la République et pour les gens présents et ceux qui regardaient même à la télé. C'était, c'était dur.
C'est clair que...
7 heures d'affilée de politique, moi, je peux vous dire, ouais, même le président, il était gavé à la fin.
Tu m'étonnes.
Donc, une véritable preuve de volonté et de courage de la part de nos premiers élus, qu'on remercie, les maires qui ont fait leurs efforts pour être présents, pour poser les questions, pour parler, pour débattre. Et aussi du chef de la République, faut l'admettre, il a été présent, il a écouté, il a été attentif et il a su répondre pendant 7 heures. C'est aussi louable.
Bien sûr.
Donc, voilà. L'échange était parfois tendu par moments et plus leste par d'autres, en fait. Il a eu son effet positif et bien sûr son effet négatif parce que c'est forcément critiqué. Voilà.
Ben
en,
oui.
En ce moment, on critique tout, aussi bien positivement que négativement. Voilà, c'est comme ça. Et donc, on sait pourtant reconnaître les efforts du président de la République, même du côté des Gilets jaunes, qu'ils arrivent à affirmer. Il a su être spontané et répondre à toutes les questions sur le champ. Et c'est voilà.
Donc,
c'était le petit compliment qu'on lui a fait. Ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas reçu de la part des Français. Donc, il a eu son petit compliment. Voilà.
Donc, il faut qu'il l'accroche autour du cou.
Voilà.
Alors, parce que...
Et malgré les petits pics et remarques de ses interlocuteurs, il a su introduire de petites blagues et des rires jusqu'au bout et parler sans tabou des sujets les plus pointus comme les retraites, le référendum d'initiative citoyenne et l'impôt sur la fortune, qui étaient les trois sujets quand on s'attendait à ce qu'ils soient les plus tabous. Ben, il a réussi à en parler sans donner forcément raison à qui que ce soit. Ben, il est resté ferme sur ses décisions, mais il en a parlé tout de même. Voilà, mais il reste du travail pour convaincre les maires et les Français. Les maires qui disent craindre que ça leur retombe dessus, en fait, que ça se retourne contre eux.
Ce qui n'est pas faux aussi, voilà. Bon, faut le prendre en compte, bien sûr. Voilà,
ça a été la phrase dite à la sortie par les maires, en fait. Et ils restent aussi sceptiques, en fait. Tant qu'il n'y a pas de résultat concret, en fait, ils ne peuvent pas se permettre de dire « on a réussi quelque chose ».
Bien sûr.
Ce serait trop rapide. Voilà les impressions, en fait. Et ben, en fait, c'est tout ce que ça a donné. Les Français, ben, ils pensent pareil. Tant qu'il n'y a pas d'action, là, la France, en ce moment, c'est plus ça qu'elle a besoin. Des faits, des actions, du solide, en fait. Et ben, ça reste un dialogue pour l'instant, voilà.
Bien sûr. L'émission est quasiment finie. Alors... qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus de ce débat de 7 heures ? Je pense que 7 heures de boulot, ça doit être une première pour les maires.
En fait, ce qu'il faut dire, c'est que oui, c'est une première. Tout le monde en est content, on va dire. Mm-hmm. Mais ça reste en fait quelque chose de... Ben, ça n'a pas de résultat pour l'instant. En fait, on ne peut pas dire est-ce que c'est une bonne chose, ça a ramené des bons résultats ou pas. Il va falloir attendre de voir parce que les réponses, elles étaient assez... assez flou, j'ai envie de dire, ça ne nous donnait pas d'indices. Donc il va falloir attendre en fait des résultats, du concret. Comme tout le monde, on est là, on attend et on va voir. Et après, le gouvernement, il en promet plein d'autres, des débats comme celui-là. C'est que le début d'une longue liste. Donc on attendra, peut-être que dans les autres, on aura un petit peu plus de chance. Voilà,
donc restez à l'écoute. Et puis Aïcha, elle est là aussi, bien justement, pour surveiller en même temps que vous et aussi pour vous apporter aussi.
Tout ça.
Et bien voilà. Restez à l'écoute. Merci de nous avoir suivis. Il est quasiment fini l'émission. Et je vous remercie, vous tous, d'être venus ici dans notre radio, mais surtout de participer à cette émission. Merci
avec
à
plaisir.
Marion avec ses éclaircissements sur Monsieur le maire de son première sortie, à Aïcha, bien sûr, nous n'avons pas compris grand-chose du discours de Macron, mais voilà, nous avons compris qu'il était venu, il a fait 7 heures avec les maires. C'est cool. Merci à vous tous, et puis Damien, bien sûr, à toi aussi.
Oh, mais merci à toi, surtout parce que moi...
sois pas si modeste, Caris.
Le cœur de cette émission.
Caris, sois pas modeste. Non, je rigole. Merci en tout cas, il est 17h, mais je dois rendre l'antenne. Merci de nous avoir suivis. Et puis je vous dis à demain, le vendredi blabla. Donc voilà, ça sera demain pour la culture musicale de Rouen, des hauts et des bas pour tout le monde. Ciao, et à demain.
Bonne soirée.
À vous aussi, ciao.